Troisième temps de notre semaine consacré à l'histoire de l'Empire byzantin à l'occasion de l'apparition de deux ouvrages importants sur cette période, le Pourquoi Byzance de Michel Kaplan chez Gallimard et le Constantinople 1453 des Byzantins aux Ottomans chez Anacharsis. Lundi, Michel Kaplan nous a exposé les raisons qui ont permis, selon lui, de faire tenir 11 siècles cet empire qui se considérait comme l'héritier direct de Rome. Hier, Anaïs Quien et Françoise Camard, dans leur documentaire, nous ont raconté la chute de Constantinople grâce à la publication d'un ouvrage qui rassemble en français les récits venus de toutes parts de la chute de cette ville, justement. Demain, nous nous demanderons ce qu'a été le schisme et aujourd'hui, dans cette émission d'archives du mercredi, nous allons, grâce à des lectures qui seront effectuées par Daniel Königsberg, avec Anaïs Quien évoquait la quatrième croisade, celle de 1204, qui plutôt que de reconquérir Jérusalem, prendra la ville de Constantinople, en compagnie de Guillaume Saint-Guilain et de Jean-Claude Chesnay.
Vous étiez chargé de la croix, et vous nous aviez juré et sur elle et sur les saints évangiles que vous passeriez sur les terres des chrétiens sans y répandre de sang et sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Vous nous aviez dit que vous n'aviez pris les armes que contre les Sarrasins et que vous ne les vouliez tremper que dans leur sang. Vous aviez promis de vous abstenir de la fréquentation de vos femmes dans le temps que vous porteriez la croix, comme des soldats enrôlés sous les enseignes du Sauveur. Il est évident cependant que, bien loin de défendre son tombeau, vous outragez les fidèles qui sont ses membres. Bien loin de porter la croix, vous la profanez et vous la foulez aux pieds. Pendant que vous faites profession d'aller chercher une perle précieuse, vous jetez dans la boue la perle précieuse du corps adorable de notre Dieu. Les Sarrasins en ont usé avec moins d'impiété. Quand ils étaient maîtres de Jérusalem, ils traitaient les Latins avec quelque sorte de douceur. Ils ne violaient point la pudicité de leurs femmes. Ils n'emplissaient point de corps morts le sépulcre du Sauveur.
Voilà pour ce premier extrait de texte pour cette émission du mercredi consacrée donc, comme toutes les émissions de cette semaine, du lundi au jeudi, à la question de Byzance. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous nous accompagnez donc toute cette semaine et bonjour à nos deux invités, Guillaume Saint-Guilain, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Claude Chesnay, bonjour.
Bonjour.
Le texte qui vient de nous être lu a été lu par Daniel Königsberg. Il est signé Niketas Koniates. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Niketas Koniates qui semble se plaindre, et il a des raisons de se plaindre effectivement, en tant que Byzantin, en tant que membre donc de l'Empire Byzantin, semble se plaindre de ce qui vient de se passer en 1204 et donc à Constantinople.
Alors, il faut peut-être rappeler quelle est la situation de l'Empire, non pas en 1204, mais en 1203, avant la première prise. L'Empire qui a connu une très brillante période sous les Comnènes, notamment sous le règne de l'empereur Manuel, mort en 1180, depuis un quart de siècle, connaît des difficultés à la fois sur le plan interne, parce que vous avez des coups d'État, des coups d'État qui ont changé les empereurs assez vite, et vous avez une reprise des offensives extérieures, notamment la création d'un empire bulgare sur les terres occidentales de l'Empire qui l'ont affaibli. Mais il faut dire que depuis 1200, l'empereur du moment, Alexis III de la dynastie des Anges, qui est une branche des Comnènes, qui a succédé à son frère en le renversant et en l'aveuglant,
eh bien Alexis... Et en l'enfermant dans les geôles de ses prisons.
Oh, bah, c'est normal, oui. De toute façon, aveuglé, il était quand même un peu diminué. Et donc cet empereur, grâce au mariage qu'il a pu obtenir pour ses trois filles, qu'il a donné en mariage à des grands généraux, a pu redresser la situation de l'Empire à partir de 1200, lui-même n'étant pas un grand militaire. Et donc, c'est dans ce contexte d'un empire quand même déjà affaibli que va se situer ce choc de la quatrième croisade. Je voudrais encore dire juste un mot pourquoi les Byzantins ont l'habitude des croisades depuis la première croisade. Et il s'est passé une évolution très intéressante, c'est que les Byzantins ont toujours peur du passage d'une grande armée, mais ils sont pas les seuls à proximité de leur capitale, c'est assez normal. Mais depuis Manuel Comnène, l'idée s'est fait jour que l'Empire byzantin est un secours naturel pour les États latins de Terre Sainte. Mmh. Et c'était la politique de Manuel Comnène.
Et puis Constantinople se trouve sur le passage, sur le chemin, à pied, parce qu'on va quand même largement à pied aux croisades et pas forcément
terrestre.
En bateau.
Sur la route terrestre, mais plus on avance dans le siècle, plus les expéditions maritimes sont concevables. Et la troisième croisade l'a prouvé, deux rois sont allés par mer et l'empereur d'Allemagne par terre.
Donc alors, c'est une grande étape.
C'est une grande étape. Il y a toujours des questions de logistique.
Guillaume Saint-Guilain, donc quatrième croisade fait suite à une précédente, la troisième qui n'est pas si ancienne que cela, quelques années auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette troisième croisade qui justifie la relance de la croisade très très rapidement, une quatrième qui doit se rendre à Jérusalem et qui, on l'a compris, se rend prioritairement à Constantinople, Guillaume Saint-Guilain?
Eh bien, à la fois l'échec et le succès de cette troisième croisade. D'un certain point de vue, cette troisième croisade a été un succès, puisqu'elle a permis la reconquête d'une grande partie, tout de même, des territoires des États latins qui avaient été perdus à la suite des conquêtes de Saladin, après la reprise de Jérusalem par Saladin en 187 en particulier, à laquelle l'extrait de Nicetas Cognates qu'on vient de lire faisait d'ailleurs allusion, soulignant que finalement Saladin avait traité avec relative humanité les Latins. Cette troisième croisade a permis de récupérer une partie des territoires perdus, mais elle n'a pas permis de récupérer Jérusalem, la ville sainte. Et donc c'est cette ville sainte que les chrétiens d'Occident, hein, en particulier le pape Innocent III, veulent recouvrer.
Nous, confiants de la miséricorde de Dieu et dans l'autorité des saints apôtres Pierre et Paul, grâce à ce pouvoir de faire et de défaire que Dieu nous a conféré malgré notre indignité, nous accordons à tous ceux qui se soumettent à l'épreuve de ce voyage personnellement et à leurs frais le pardon complet des péchés dont ils se repentent à haute voix et dans leur cœur. Au juste, nous promettons en récompense une plus grande part de l'éternel salut.
Voilà donc une partie du texte de Innocent III qui appelle justement à cette quatrième croisade. Alors cette quatrième croisade, Guillaume Saint-Guilain, elle est un peu particulière parce qu'on a l'impression qu'elle ne sait pas très bien où elle va aller. Il y a d'abord des mésaventures sur le chemin, pourrait-on dire, et des mésaventures dès le départ de l'Europe occidentale et en particulier d'Italie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce départ un peu tumultueux de ces chevaliers pour la croisade ?
La quatrième croisade a dès l'origine un problème de leadership, puisque contrairement à la troisième croisade, qui était une croisade de rois, elle n'a pas dirigeant de premier plan à sa tête.
D'abord, il y a beaucoup de réticence à l'organisation de cette croisade. Avant même le départ, on est un petit peu échaudé par l'expérience de la croisade précédente.
Oui, c'est vrai, mais il y a aussi dans d'autres secteurs un certain enthousiasme. La prédication de certains, par exemple, de Fulk de Neuilly rencontre du succès. Donc, je ne pense pas que ce soit une croisade qui commence sous la contrainte du pouvoir pontifical. Mais c'est vrai que Innocent III a lancé cette croisade sans lui proposer une organisation claire.
Et donc
les chefs naturels de la croisade, ce sont les rois, bien sûr, en tout cas depuis la troisième croisade. Or, l'empereur germanique, Henri VI, qui devait conduire une croisade, qui d'ailleurs avait commencé à lancer une croisade, est mort en 1197. Et ses successeurs, ou plutôt les prétendants à sa succession, ont d'autres soucis que d'aller récupérer le tombeau du Christ, si bien que finalement cette croisade sera une croisade de barons, une croisade de grands féodaux. Et deuxième contretemps, celui qui s'était finalement imposé en raison de ses parentés royales, notamment comme le chef de la croisade, le comte de Champagne, meurt avant le départ, alors que l'expédition a commencé à s'organiser. Donc la croisade est un petit peu sans chef et sans direction claire.
Et on part donc pour Venise, en l'occurrence, pour pouvoir faire démarrer cette croisade. Et peut-être, ça se passe-t-il déjà un peu mal, un texte lu par Daniel Königsberg.
Ils s'en allèrent à Venise, et parlèrent au duc de Venise, et dirent ce qu'ils étaient venus chercher. Qu'ils cherchaient à louer passage pour 4000 chevaliers et leur harnachement, et pour 100 000 hommes à pied. Quand le duc entendit cela, il dit qu'il en prendrait conseil, car pour si grande affaire, il fallait bien en prendre conseil. Donc, il manda tous les hauts conseillers de la ville, et il parla avec eux, et leur exposa ce qu'on lui avait demandé. Et quand ils eurent bien pris conseil, le duc répondit aux messagers et leur dit « Seigneur, nous ferons volontiers marcher avec vous, et vous trouverons une flotte suffisante pour 100 000 mars, si vous voulez bien, cette condition, que j'irai avec vous, ainsi que la moitié de ceux qui pourront porter armes de tout Venise, et à condition aussi que nous aurons la moitié de toutes les conquêtes que l'on y conquérera. Et nous vous amènerons en outre 50 galères à nos frais de ce jour, que nous vous dirons en un an. Nous vous mènerons en quelque terre que vous voudrez, soit Babylone, soit Alexandrie. » Quand les messagers entendirent cela, ils répondirent que c'était trop cher, 100 000 mars, et ils discutèrent ensemble tant qu'ils furent marchés pour 87 000 mars, de sorte que le duc et les Vénitiens et les messagers jurèrent de tenir ce marché. Ensuite, le duc dit qu'il voulait avoir 25 000 mars d'art pour commencer à préparer la flotte. Et après, le duc fit crier son ordonnance par tout Venise, que nul Vénitien ne fût assez hardi pour aller aucunement commercer, mais qu'ils aidassent tous à faire la flotte, et ils firent ainsi, et ils commencèrent la plus riche flotte qu'on eût jamais vue.
Un extrait de Robert de Clary, chevalier Picard, donc qui raconte le départ du côté de Venise et surtout la négociation, Anaïs Quien.
Oui, et puis cette quatrième croisade est une croisade où finalement rien ne se passera comme prévu. Peut-être qu'on est passé un petit peu vite sur le projet véritablement de cette croisade, car il est question ici du grand sac de Constantinople de 1204, on va y arriver. Mais au départ, hein, Guillaume Saint-Guilain, l'objectif de cette croisade n'est pas du tout de s'arrêter à Constantinople.
Non, l'objectif, comme les croisades précédentes et les projets de croisades précédents, c'est l'Orient et plus particulièrement c'est l'Égypte qui est conçue comme étant la donc Babylone. Ici, en l'occurrence, c'est pas Babylone en Mésopotamie, hein, mais c'est le Caire. Et donc Alexandrie se trouve également en Égypte. Donc c'est l'Égypte qui est considérée comme la clé de l'expédition. Et du coup, on a quand même des objectifs très très ambitieux. Donc, vous avez cité les chiffres qui sont envisagés. Hein. Donc, on prévoit une très grosse armée. Hein. Et on finit par s'entendre sur un prix de 85 000 marks d'argent, ce qui constitue quand même, ça fait 20 tonnes d'argent.
Et donc, c'est conséquent.
Oui, c'est assez conséquent. Alors, c'est toujours absurde de faire ce type de comparaison, mais si on convertissait ça au taux actuel de l'argent, ça fait 10 millions d'euros. Hein. Bon, c'est une comparaison qui n'a aucun sens, mais qui nous donne quand même un vague ordre de grandeur. Donc c'est une somme considérable qui est
envisagée.
Voilà. Et je dois dire que vous dites qu'à ce stade-là, les choses se passent pas bien. Je dirais que jusque-là, elles se passent encore bien. D'ailleurs, le comte de Champagne n'est pas encore mort. À ce moment-là, il va mourir que le mois suivant. Et ça va quand même, c'est quand même une des raisons qui vont faire dérailler la croisade.
C'est Boniface de Montferrat qui prendra la tête
voilà,
de cette armée croisée.
Donc un croisé italien, mais qui a de très bonnes parentés, qui cousine à la fois avec le souverain allemand et le roi de France, donc qui s'impose et qui est aussi un personnage âgé, alors que les autres leaders de la croisade sont beaucoup plus jeunes. Hein. Il y a pratiquement 30 ans de différence entre lui et Baudouin de Flandre. Donc ils ne sont pas de la même génération. Donc Boniface s'impose aussi à cause de son expérience et à cause des relations traditionnelles que sa famille a avec Byzance. Peut-être M. Chesnay peut les évoquer mieux que moi.
Jean-Claude Chesnay.
Oui, un des frères aînés, Régnier, a épousé la fille de Manuel Comnène à une époque où il avait un fils, donc il n'était pas l'héritier direct. Un autre frère, Conrad, a épousé très temporairement, il faut le dire, une sœur d'Isaac de Ange et a aidé l'empereur à mater une rébellion en 1187 contre Alexis Branas. Donc la famille de Montferrat est à la fois très bien connue en Orient parce que Conrad va jouer un rôle quand même dans la survie du royaume latin avant l'arrivée de la troisième croisade et Il est bien connu aussi, finalement, au moins des Byzantins de Constantinople.
Mmh. Oui, donc ça veut dire tout de même qu'il y a des relations régulières entre ces familles nobles occidentales et les familles nobles de l'Empire byzantin, et qu'elles ne sont pas, disons, elles se connaissent d'une certaine façon, elles se connaissent même très bien en l'occurrence.
Et notamment, Manuel Comnène a eu une politique matrimoniale. Il avait une quantité de nièces remarquables, et il les a données à des princes latins d'Orient. Même encore en 1203, on verra, l'empereur d'Allemagne, Philippe de Soie, a épousé la sœur du prétendant qui viendra à Alexis IV, donc une fille d'Isaac de Ange. Le monde byzantin est tout à fait intégré à la diplomatie européenne.
Matrimoniale en particulier.
Notamment par le biais des mariages, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup de latins qui viennent à Constantinople pour diverses raisons, le commerce, l'armée et le pèlerinage.
Anaïs Kien.
Alors, lorsque cette armée de croisés arrive à Venise pour s'embarquer, le doge de Venise, Guillaume Saint-Guilla, exige que cette armée de croisés paye toutes ses dettes pour le transport. Et ça ne leur est pas possible, et il va leur mettre en main un marché qui va commencer à faire dérailler cette croisade.
Il faut bien comprendre que le doge a pris un pari considérable en acceptant de conduire les croisés en Orient. Ça veut dire immobiliser la flotte marchande vénitienne pendant plus d'un an. Ça veut dire construire des navires supplémentaires, parce que la flotte ordinaire n'est pas suffisante pour transporter les chevaliers, leurs chevaux, pour lesquels il faut des navires spécifiques et tout ce qui va avec. Hein. Donc, ça représente un investissement énorme.
Un investissement énorme en vue de pouvoir installer de nouveaux comptoirs commerciaux, éventuellement, en cas de victoire de cette croisade. C'est un pari.
Il peut espérer, effectivement, comme ça a été le cas au XIIe siècle, que le soutien des Vénitiens à la croisade leur permettra de développer leurs activités au Proche-Orient. Cela dit, il faut pas exagérer le cynisme des Vénitiens. Les Vénitiens ont aussi développé leur commerce en Égypte. Attaquer l'Égypte, ça veut dire aussi interrompre ses activités commerciales. Les Vénitiens aussi sont des chrétiens, les Vénitiens aussi sont des croisés. Hein. Ce ne sont pas des calculateurs cyniques.
Oui, Jean-Claude Chenet.
Je voudrais dire que le choix de Venise n'est pas du tout conçu pour aller vers Constantinople ou parce qu'il y aurait un contentieux entre les Vénitiens et les Constantinopolitains.
Il n'en est pas question pour le moment à ce stade de l'histoire.
En 1198, il y a eu un accord entre l'empereur Alexis Ange et les Vénitiens pour régler les questions financières d'une vieille affaire remontant à l'époque de Manuel Comnène. Et si les croisés ont été vers Venise, c'est que je crois que Gênes et Pise n'était pas disponible parce que sortait d'une guerre épuisante. Donc Venise n'est pas conçue dans le projet originel en fonction d'une éventuelle déviation.
Et de plus, les croisés avaient promis de payer par tranche la somme qu'ils avaient accepté de régler et ne l'ont pas fait. Donc il est assez logique que le doge leur réclame le paiement au moment où l'armée s'est rassemblée. Seulement, évidemment, bien, il y a beaucoup moins de croisés que prévu, le tiers, peut-être un peu plus de ce que on attendait. Et donc, on ne peut pas réunir la somme escomptée. Enfin, il manque 34 000 marques.
Et donc, en signe de bonne volonté, le doge va accepter d'attendre ce paiement. Mais en échange, il demande à ses croisés de l'aider à récupérer une place perdue par Venise en Dalmatie, Zara, ce qui va initier finalement le détournement de cette croisade.
Dès que les pèlerins furent arrivés à Zara, on fit publier par des héros d'armes qu'ils eussent à se réunir pour entendre les ordres du pape. Le légat leur adressa la parole et leur fit lire les lettres du Saint-Père. Il leur indiqua d'une manière précise la route de Constantinople et chercha à leur prouver que cette expédition était beaucoup plus importante que celle de Syrie, attendu qu'il était bien plus avantageux de mettre d'accord les chrétiens entre eux et de réunir les Grecs aux Francs que d'aller en Syrie sans aucune espérance certaine. Un grand nombre de croisés s'indignèrent d'une semblable proposition, et voyant que leurs chefs les plus éclairés étaient résolus à renoncer à la conquête de la Syrie pour prendre le chemin de Constantinople, ils retournèrent dans leur pays. Les indulgences accordées par le pape et les discours du légat déterminèrent toutefois le plus grand nombre à l'entreprise de Constantinople.
Un extrait d'une chronique, la chronique de Moret, qui raconte donc ce détournement vers Zara en Dalmatie, la conquête de Zara pour le compte justement des Vénitiens. Et Guillaume Saint-Guilain, on l'a dit depuis le début, ça commence à dérailler, les gens se disent est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, on dit est-ce qu'il faut aller à Constantinople avant que d'aller en Syrie, et là on se dit il y a peut-être un peu d'indétermination dans l'ambition des croisés à rejoindre Jérusalem.
Oui, alors il faut dire que la chronique de Moret est écrite au XIVe siècle, oui. Donc là, elle reconstitue complètement les événements. Loin d'encourager les croisés à se rendre à Constantinople, le pape est absolument opposé à ce détournement. Et il menace d'excommunication les croisés au cas où ils s'en prendraient à une ville chrétienne, donc Zara, l'actuelle Zadar en l'occurrence.
Il y a des excommunications à la suite de la prise de Zara.
Absolument.
Croisés excommuniés sur le route... sur la route d'une croisade.
Voilà, et en fait, le pape va lever l'excommunication des croisés qui vont faire amende honorable en expliquant qu'ils n'ont pas pu faire autrement, mais pas celle des Vénitiens, puisque les Vénitiens refusent de repentir. Les Vénitiens considèrent qu'ils ont fait quelque chose de tout à fait légitime, récupérer une ville rebelle à leur égard. Sûrement, cette ville appartenait au roi de Hongrie qui s'était lui-même croisé.
Et c'était une ville chrétienne.
Et c'était une ville chrétienne, mais en plus appartenant au prince croisé et donc protégé. A priori, de toute attaque militaire.
Mais qu'est-ce qui explique justement cette question, peut-être cette moindre fermeté dans la volonté d'avancer, cette indétermination? Vous nous avez dit il y a un problème de leadership, pourrait-on dire aujourd'hui, de cette croisade, en l'occurrence, Guillaume Saint-Guilain. Il n'y a que ça qui explique justement ce fait qu'on va attaquer d'autres chrétiens de l'autre côté de l'Adriatique, ou alors on va attaquer d'autres chrétiens un peu plus loin lorsqu'on va se rendre à Constantinople, même si ce sont des chrétiens qui font suite au schisme, en l'occurrence, des orthodoxes.
Je crois qu'une armée, c'est difficile à diriger, c'est difficile à contrôler, et un État aussi, c'est difficile à contrôler. On parlait du doge tout à l'heure, hein. Il faut voir que le doge n'a pas seulement à faire face à la présence d'une armée quand même importante au cœur de son territoire, qui pourrait très bien, après tout, s'en prendre aux Vénitiens eux-mêmes.
Se retourner contre lui.
Absolument. Il y a une bulle pontificale qui suggère même peut-être, d'ailleurs pas une bulle, un document très très curieux, qui n'est pas un document officiel, qui suggère même aux croisés éventuellement cette possibilité pour vider les comptes. Mais il a aussi à faire face au mécontentement des Vénitiens, à qui on a promis que leurs efforts seraient récompensés, et qui ne voient pas venir l'argent.
Jean-Claude Chenet.
Oui, c'est une question vraiment financière pour les Vénitiens. On l'a dit, ils ont investi un capital énorme, et pour eux, c'est assez naturel, en quelque sorte, de transformer ce que nous appelons les croisés en mercenaires pour un objectif vénitien qui permettra de récupérer un peu des fonds perdus. Et évidemment, ils vont être extrêmement intéressés lorsqu'un autre partenaire va venir. Auprès des croisés, je pense au jeune Alexis futur 4.
Alors justement, c'est une histoire un petit peu compliquée, donc on va peut-être poser les choses, Jean-Claude Chenet, peut-être pour voir comment cette nouvelle destination, Constantinople, intervient pendant ces mouvements vers l'attaque de Zara, puisque Boniface de Montferrat, qui donc est le nouveau leader de cette armée croisée, ne participe pas directement à cette attaque de Zara. Il disparaît quelque temps et il aurait été négocié effectivement avec Alexis IV, donc le fils de l'empereur détrôné par son propre frère Alexis III, actuellement sur le trône de Constantinople. C'est une vraie cousinade à la mode byzantine.
Allons. C'est effectivement le fruit d'une querelle dynastique. Le jeune Alexis a pu s'enfuir sur un navire pisan. Il a été rejoindre son beau-frère, l'empereur d'Allemagne, qui était occupé avec Otton de Brunswick, donc il ne peut rien faire, et qui lui a conseillé d'aller voir Boniface de Montferrat, qui dans un premier temps ne peut rien faire. Il a été voir le pape, qui lui a dit non, on ne peut rien pour vous, on ne veut pas s'engager dans des querelles, j'allais dire presque byzantines. Mmh. Et malgré tout, lorsque les croisés sont à Zara, il ne faut pas oublier les dates. Hein, nous sommes en novembre, ils ne vont plus pouvoir à cette date traverser pour aller en Égypte. Il y a toujours des questions de logistique et de ravitaillement. Et donc, l'arrivée de ce jeune homme, un petit peu aidé par Boniface de Montferrat, donne une excellente impression. Il y a les mêmes discussions que pour Zara, mais qu'est-ce qu'il leur dit, Alexis ? Mon oncle est impopulaire à Constantinople. On verra que c'est un peu vrai.
Et, mais pas tout à fait non plus.
Si je viens à Constantinople, on va ouvrir les portes. Et à ce moment-là, en remerciement de votre aide, moi, je vous donne de l'argent. Je ne sais plus, il a promis 100 000 mars ou 200 000 mars d'argent. Il faut dire qu'il est totalement inexpérimenté. Il connaît pas du tout les caisses et l'état des finances byzantines. Je promets d'envoyer 10 000 hommes pendant un an vous aider en Égypte, garder 500 chevaliers à vie en territoire de Terre Sainte. C'est exactement ce dont les croisés ont besoin, sans compter bien sûr une promesse de ravitaillement qui a déjà été toujours celle des croisades précédentes. Les Byzantins ont toujours fourni du ravitaillement.
Donc cette étape vers Constantinople, motivée notamment par les promesses d'Alexis IV, à ce moment-là, n'est qu'une étape sur la route de l'Égypte.
Ah oui, l'objectif ultime reste toujours l'Égypte. Et l'idée, c'est que cet objectif sera d'autant mieux atteint qu'on aura eu ce soutien bien byzantin. Sûr. Et je répète, ça reprend la tradition de Manuel Comnène, mais d'une façon un petit peu différente.
Alors, il faut dire aussi que peut-être les croisés le savent-ils, mais peut-être ne savent-ils pas. Ces questions de succession dynastique sont complexes dans cet empire byzantin. Et effectivement, ils peuvent parier sur ce personnage-là en se disant, on va faire un pari. Et effectivement, on va récupérer la somme qu'on aura investie en soutenant sa candidature, pourrait-on dire. Et en fait, effectivement, il n'y a pas de règle véritable de succession. C'est compliqué, les règles de succession dans cet empire byzantin au début du XIIIe siècle, en l'occurrence.
Le principe même de la succession byzantine, celui qui est effectivement sur le trône, c'est que Dieu l'a voulu. Et en gros, l'empereur effectif devient légitime, sauf s'il se met à gouverner de façon tyrannique, c'est-à-dire illégitime, en mauvais empereur chrétien. À ce moment-là, il peut être légitime de se révolter contre lui. Mais enfin, c'était pas difficile de dire que le comportement d'Alexis à l'égard de son frère Isaac II n'était pas entièrement chrétien.
Parce qu'il avait effectivement déposé et ensuite effectivement aveuglé. Ce nouvel Alexis qui va intervenir, Alexis IV va intervenir dans la danse. On va partir vers Constantinople et on va découvrir Constantinople. C'est un récit tiré de Geoffroy de Villehardouin.
Or, vous pouvez savoir qu'ils regardèrent beaucoup Constantinople, ceux qui ne l'avaient jamais vue, car ils ne pouvaient penser qu'il pût être, en tout le monde, une ville si riche. Quand ils virent ses hauts murs et ses riches tours, dont elle était close tout entour à la ronde, et ses riches palais et ses hautes églises, dont il y avait tant, que nul ne le put croire, que s'il ne l'eût vu de ses yeux, et la longueur et la largeur de la ville qui entre toutes les autres était souveraine. Et sachez qu'il n'y eut homme si hardi à qui la chair ne frémit, et ce ne fut pas merveille, car jamais si grande affaire ne fut entreprise par nul gens depuis que le monde fut créé.
Voilà le récit de Geoffroy de Villehardouin qu'on retrouvera après cette conquête par les croisés de Jérusalem lors de cette quatrième croisade qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Alors Jean-Claude Chesnay, ces croisés occidentaux ne connaissent pas pour la plupart d'entre eux cette ville de Constantinople, mais elle a une renommée, une fama considérable dans tout le monde chrétien, parce que tout de même, c'est l'héritière de Rome et l'héritière de l'Empire romain, Jean-Claude Chesnay.
Alors, beaucoup d'Occidentaux connaissent Constantinople pour y être passés, mais pas dans le gros de la troupe, j'imagine. Mais il faut dire que c'est la plus grande ville de la chrétienté, même du point de vue démographique. On ignore combien il y a d'habitants. D'après Villehardouin, il y en aurait 400 000, mais mettons 250 000 n'est pas un nombre inimaginable. Et c'est effectivement de loin la plus grande ville de la chrétienté. Et elle contient effectivement des richesses tout à fait considérables, accumulées au fil des siècles. Et notamment, ce qui n'est pas dit ici, mais qui va intéresser beaucoup les croisés après 1204, c'est une capitale de la relique et on vient déjà avant, depuis longtemps, en pèlerinage, en allant souvent sur le chemin de Jérusalem, mais à Constantinople, pour admirer notamment la vraie croix qui est conservée au palais impérial.
Anaïs Kien.
Oui, Guillaume Saint-Guilain, l'arrivée à Constantinople émerveille les croisés, mais c'est aussi une arrivée qui les surprend finalement. Il y a un premier siège en 1203, mais un siège à défaut de pouvoir provoquer finalement une révolte populaire de soutien à Alexis IV.
Alors, finalement, il y a une forme de révolte populaire, puisque ce sont les habitants de Constantinople qui, non pas proclament empereur Alexis IV, mais rétablissent Isaac II, qu'ils ont cherché dans sa prison. Mais ils le font vraiment quand le pouvoir d'Alexis III s'effondre, hein, parce que, comme Jean-Claude Chesnais l'a dit, ce n'est pas un grand militaire et il n'a pas été capable d'assurer la défense efficacement.
Et il s'enfuit.
Oui,
Jean-Claude Chesnais. Je dirais qu'il faut faire attention. Les journées du 17 juillet, 18 juillet 1203, il y a effectivement un assaut sur Constantinople à une époque où les murailles maritimes sont affaiblies dans la mesure où elles ne sont pas été renforcées et les navires vénitiens peuvent arriver au-dessus et avoir l'avantage sur les défenseurs. Mais Alexis III a peut-être en fait été très intelligent, c'est-à-dire qu'il a d'une part permis par une sortie de son armée sans engager le combat contre les croisés, parce qu'en général, ça se passe mal face à la cavalerie latine. Il a permis de récupérer les murs dont les Vénitiens s'étaient déjà en partie emparés. Simplement, il est parti durant la nuit parce que il ne sait pas quel soutien populaire il a vraiment. Il a quand même le souvenir qu'il arrive des malheurs aux empereurs parfois. Et d'autre part, il est possible aussi qu'il ait eu une idée stratégique, laisser sa femme, qui était une forte femme, Frosine Kamateritsa, l'impératrice, qui avait joué un rôle dans son coup d'État, à Constantinople, tenir la ville pendant que lui va en province, éventuellement amener une armée de secours. Si vous voulez, les Byzantins, l'empereur n'a pas eu conscience que Constantinople va être attaquée vraiment que quelques mois auparavant. Cette déviation, nous savons qu'elle était en préparation, mais lui, il ne pouvait pas en avoir une pareille conscience.
Guillaume Saint-Guilain, pour poursuivre donc sur cette première tentative de conquête de Constantinople et de rétablissement d'arriver sur le trône d'Alexis IV.
Oui, alors donc c'est vrai que la population de Constantinople est quand même un petit peu incontrôlable et qu'il y a le souvenir des tristes destins de certains empereurs, en particulier le massacre de l'empereur Andronique en 185, qui a fait une très forte impression, non seulement chez les Byzantins, mais aussi en Occident. Hein. Donc c'est aussi une des légitimations, d'ailleurs, qui seront données a posteriori pour la croisade, hein, que les Grecs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes puisqu'ils tuent leur seigneur. Hein. Donc ce sont des mauvais chrétiens puisqu'ils ne respectent pas leur prince.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, Guillaume Saint-Guilain. La nature même de l'empereur est mise en question à travers cette possibilité du tyrannicide.
Oui, et les latins ont du mal à comprendre que les Byzantins n'aient pas davantage de conscience dynastique, même s'ils en ont quand même, hein, mais un peu à leur façon.
Oui. Mais pas une légitimité automatique.
Et donc de ce point de vue-là, oui, l'enthousiasme assez moyen des Byzantins à l'égard d'Alexis IV est une déception pour les croisés, oui, c'est certain. Même s'il s'efforce de stimuler cet enthousiasme dans l'été qui suit, en allant le promener dans divers territoires de l'Empire, pas trop éloigné de Constantinople quand même, pour le faire reconnaître par ses nouveaux sujets.
Anaïs Kien.
D'ailleurs, il sera co-empereur avec son père, avec le vieil Isaac, aveuglé et très très affaibli physiquement, parce que les Byzantins se méfient beaucoup de ce très jeune homme aussi. Il faut dire que cet homme a 22 ans. Finalement, ils ne le connaissent pas puisqu'il était en exil jusque-là. Guillaume Saint-Guilain.
Oui, c'est vrai. En même temps, Isaac II, visiblement, ne fait plus que de la figuration. Il est malade. Hein. On n'a même pas eu besoin apparemment de l'assassiner. Lui, il est mort de mort naturelle. Donc c'est quand même Alexis IV qui est l'empereur en exercice, dans la mesure où il a la possibilité d'exercer un pouvoir effectif, bien sûr.
Alors, poursuivons donc le récit de cette croisade en continuant avec un extrait de la chronique de Moret qui nous est lu par Daniel Königsberg.
À peine deux ou trois mois s'étaient passés que plusieurs des grands de la capitale reprirent, conformément à l'ancien caractère grec, le cours de leurs ruses et de leurs perfidies. Ils s'adressèrent à l'empereur Alexis et lui tinrent ce discours. « Maître et empereur, puisque Dieu vous a donné un trône, qui vous oblige d'aller vous exposer en Syrie? La distance d'ici à ces contrées est grande. Les approvisionnements et les bâtiments nécessaires au transport coûteront considérablement. Une autre raison encore plus forte. Voulez-vous donc que nous périssions sur la haute mer en allant en Syrie? Ces Francs que vous voyez ici sont des hommes téméraires, légers et prêts à faire tout ce qui leur vient à l'idée, laissons-les aller à la malédiction de Dieu et nous restons ici dans nos foyers. » L'empereur, qui était encore un enfant et n'avait aucune expérience du monde, consentit trop facilement à ses conseils. Ils prirent donc leur résolution sur la manière de se débarrasser des Francs. « Laissons-les, se dirent-ils, encore quelque temps. Un mois au plus, jusqu'à ce qu'ils aient consommé les provisions qu'il leur reste afin qu'ils tombent dans la disette et la famine. Alors nous pourrons commencer à les exterminer. » Après environ un ou deux mois, ils fermèrent les portes de la ville, placèrent des gardes partout et passèrent au fil de l'épée tous ceux qui se trouvaient dans l'intérieur de la ville. Les Grecs tinrent alors une conduite vraiment condamnable à l'égard de chrétiens orthodoxes et d'hommes sincères qui avaient souffert beaucoup de fatigue pour leur empereur et l'avaient rétabli dans un empire qu'ils avaient perdu. Mais Dieu, toujours clément et toujours juste, veilla à ce qu'aucun des nobles et des riches parmi les Francs ne périt dans le massacre de l'intérieur de la ville. Il n'y mourut que de pauvres gens, des hommes de métier et des valets.
Voilà un extrait de la chronique de Moret, dont on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait peut-être pas s'y fier pour le récit exact des événements et de cette trahison d'Alexis. Donc on soutient un futur empereur, il arrive au pouvoir, certes avec son père Isaac II comme co-empereur d'une certaine façon, et puis visiblement il lâche, sur les conseils de ses conseillers, il lâche les croisés qui l'ont mis au pouvoir. Ça n'est pas très sympathique en l'occurrence, Jean-Claude Chesnais.
Alors Alexis IV au pouvoir est placé dans une situation difficile. Pour la première fois, l'empereur qui est à Constantinople ne rallie pas l'ensemble des provinces de l'Empire. Et donc, ni l'Asie mineure, ni une grande partie de l'Occident, qui est tenue par son oncle Alexis III, ne se rallie. Donc, il a besoin d'une force militaire pour l'aider, en quelque sorte, à conquérir son propre
pouvoir.
Et son propre pouvoir. Il va prendre à vos services ces Boniface de Montferrat, qui est d'excellents soldats. Ils vont faire une expédition en Thrace.
D'une certaine façon, il prolonge le contrat des croisés pour oui. affirmer son pouvoir.
Oui, c'est ça. Et du coup, les croisés vont rester durant l'été. Et de ce point de vue-là, la chronique de Moret a raison, c'est l'hiver qui va être très difficile pour les croisés. À partir du moment où on fermera les portes de la capitale, non pas par Alexis IV, mais son successeur. Mais il est aussi en difficulté à Constantinople, parce qu'il faut ravitailler les croisés. Les croisés demandent l'argent qui leur a été promis. Et donc, comment trouver de l'argent? Il n'y a pas d'autre solution que l'impôt. Alors l'impôt, c'est pas très populaire à Constantinople, et le mieux, c'est encore de confisquer les fortunes des adversaires politiques. Mais vous voyez, cela crée une tension à l'intérieur de la ville. Ajoutons que les tensions entre latins et grecs augmentent. Il y a déjà eu un premier incendie au moment des événements de juillet 1203, mais durant l'été, au mois d'août, il y a une querelle qui surgit entre latins et grecs autour d'une mosquée, c'est amusant, mais les latins, pour protéger leur fuite, c'est une pratique qui se fait, allument un incendie. Mais le vent soufflant du mauvais côté, cet incendie balaye tout le cœur de Constantinople. C'est l'équivalent du grand incendie de Londres. Et évidemment, ça a augmenté la colère des Grecs contre les Latins.
Anaïs.
Jean-Claude Chesnais, pourquoi y a-t-il tant de tensions au sein de cette ville entre les croisés et les Grecs byzantins?
Bien, si vous voulez, dans cette affaire, les Grecs n'ont pas demandé la venue des croisés. Surtout, ils n'ont pas souhaité que ces croisés rentrent. Et surtout, on leur donne, ils ont l'impression qu'on vide la richesse grecque en faveur des croisés qu'ils voient toujours autour et qu'ils ne voient pas déguerpir vers la Syrie ou l'Égypte. Mais je rappelle que dans le premier siège, en juillet 1203, parmi les défenseurs de Constantinople, il y a toute la colonie pisane. Et à la suite de l'incendie, et là, qui a provoqué la colère des Grecs, on peut comprendre tout de même. Mmh. Eh bien, les Pisans se sentent menacés, tous les Latins se sentent menacés, ils vont passer dans l'autre camp et renforcer les rangs des croisés.
Oui, parce qu'il faut tout de même dire que cette ville de Constantinople, vous avez cité comme cela au détour d'une phrase, le fait qu'il y ait une mosquée, est une ville qu'on appellerait aujourd'hui multiculturelle. C'est comme ça qu'on la décrirait. En tous les cas, disons qu'il y a une mosquée et quelques musulmans qui sont là. Il y a également, vous l'avez dit, des occidentaux, des latins qui sont présents et depuis très longtemps dans cette ville de Constantinople. Mais il y a également des arméniens. Enfin, il y a des gens qui viennent un peu partout de tout ce Proche-Orient et de ce Moyen-Orient.
Cosmopolite, plutôt que
cosmopolite, oui, bien sûr.
Voilà, parce que
cosmopolite, vous avez raison.
La mosquée, il y a aucune difficulté. Il y a eu des accords et
il y a même deux mosquées. En fait.
Il y a même deux mosquées à ce moment-là. Effectivement, il y a eu des accords et ça ne choque personne. Pour les croisés qui vont combattre les musulmans et qui nous sortent du fin fond de leur province occidentale, il y a là quelque chose d'un peu
bizarre.
Et toujours l'idée, alors la perfidie grecque, ils sont les amis de nos ennemis, vous voyez. Mais c'est pas très décisif.
Et des souvenirs qui sont liés au passage de la troisième croisade, au moment où effectivement il y avait quand même une alliance tactique entre Isaac II et Saladin.
Plus pour des raisons turques que des raisons syriennes.
Anaïs.
Guillaume Saint-Guilain, on a bien entendu cet ultimatum posé à Alexis IV, car on veut recevoir le tribut qui a été promis et qui visiblement tarde à arriver. Alexis IV ne peut le faire. Il y a une conjuration contre Alexis IV qui va tomber, être remplacé très rapidement. Finalement, tout va très vite par un nouvel empereur, Alexis V,
Alexis Doukas. Oui, il y a beaucoup d'Alexis.
Je me permets de faire un résumé pour gagner un petit peu de temps. Et finalement, tout ça, on voit bien que la situation devient très compliquée dans une Constantinople ravagée par plusieurs incendies, à un moment de tension très fort à l'intérieur des murailles de cette ville. Mais comment en arrive-t-on à ce fameux sac de Constantinople qui va durer 3 jours?
L'usurpation d'Alexis V, enfin la prise de pouvoir d'Alexis V, c'est vraiment une rupture du point de vue des conceptions politiques des croisés. Alexis IV était un héritier spolié que les croisés étaient venus rétablir. Il avait une légitimité à gouverner qui était incontestable à leurs yeux. Alexis V est un usurpateur qui a tué son seigneur à nouveau, donc il n'a aucun droit d'occuper le trône impérial aux yeux des croisés.
Il a été étranglé, hein, c'est ça?
Oui, Alexis IV a été étranglé secrètement.
On lui a fait des belles funérailles quand même.
Oui, bon, Alexis V, néanmoins, honorait sa dépouille.
Hein, il y avait en famille.
Voilà, il y avait aussi ce n'est pas purement anecdotique, il y avait une volonté à travers cela de montrer au contraire la continuité du pouvoir impérial.
Hein. Mais on peut comprendre, même si ça n'est pas le justifié, on peut comprendre effectivement la surprise de ces croisés qui, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude Chalet, pour certains d'entre eux ne connaissent pas cette ville, ne connaissent pas non plus les pratiques du pouvoir dans cette ville de Constantinople, et de voir se succéder en quelques mois 3 empereurs avec des co-empereurs et puis des gens qui s'enfuient, d'autres qui reviennent, etc. Ça doit être assez compliqué à comprendre quand on est un latin habitué à des successions moins hardies, d'une certaine façon, Guillaume Saint-Guilain.
Oui, et même par rapport à ce que ces latins pouvaient savoir du passé de Byzance, de l'époque de l'empereur Manuel, par exemple. Et donc, on comprend qu'ils décident de trancher le nœud gordien et en mars conclure un accord visant à la prise de la ville.
Et d'ailleurs, on va en lire un extrait dans la traduction du duc de Castres. Il s'agit de Nicétas Cognatès, un autre extrait de Nicétas Cognatès qui nous raconte justement comment se passe ce sac de Constantinople. Daniel Königsberg.
Pour dire quelque chose de ce qui m'arriva en cette triste journée, plusieurs de mes amis se retirèrent en ma maison parce qu'elle était bâtie sous une galerie qui la rendait fort sombre. Elle avait une entrée secrète dans la grande église. Mais il n'y avait point de secret qui pût échapper à la curiosité de nos ennemis, et la sainteté du lieu ne nous servit de rien pour nous garantir de leur fureur. En quelque endroit qu'on pût se cacher, on était pris et emmené. J'avais retiré un Vénitien avec sa femme et ses enfants qui me servit fort utilement. Bien qu'il ne fût que marchand, il prit les armes comme un soldat et feignant d'être des ennemis et parlant avec eux en leur langue, il défendit longtemps ma porte. Mais, enfin, ne pouvant plus résister à la multitude qui entrait en foule, et principalement aux Français, qui se vantaient de ne rien craindre que la chute du ciel sur leur tête, ils nous conseillaient de nous sauver, de peur d'être chargés de chaînes et d'avoir le déplaisir de voir nos filles violées en notre présence. Marchant donc sous la conduite de ce fidèle défenseur, comme si nous eussions été ses prisonniers, nous allâmes vers les maisons des Vénitiens qui étaient de nos amis. lorsque nous fûmes arrivés au quartier qui était échu aux Français, nous fûmes abandonnés par nos valets qui s'écartèrent lâchement de côté et d'autre et obligés de porter nous-mêmes nos enfants qui ne pouvaient encore marcher.
Jean-Claude Chesnais, ce sac de Constantinople est resté dans la mémoire très longtemps. C'était vraiment sauvage, ce sac de Constantinople?
Alors, vous avez déjà ce texte de Cognatis qui est intéressant parce que... Alors, Cognatis, qui c'est? C'est un haut fonctionnaire civil de l'Empire byzantin qui a été, en gros, le principal ministre au temps d'Alexis III Ange. Et donc qui est a des relations dans toute la ville. Et vous voyez, il a un ami vénitien qui lui porte secours. Et dans la suite du récit, on voit qu'il rencontre un collègue magistrat qui est avec sa fille. Et on voit un soldat latin qui trouve que la fille, mon Dieu, est assez à son goût. Mais Niketas intervient et un officier, si je puis dire, de l'armée latine met bon ordre à cette tentative. On n'est plus exactement dans le moment du siège. Mais il faut dire que les Latins ont été très surpris. Ils se sont emparés d'une petite partie de la ville lors de l'assaut du 12 avril. Ils s'attendaient à une conquête rue par rue. Et là, la cavalerie latine n'est pas d'une aussi grande utilité. Mais il y a eu cet effondrement du pouvoir qui a permis finalement qu'il n'y ait pas eu un choc de guerre, mais il y a eu un magnifique pillage, là, vous avez vu.
Terrible, magnifique, oui, terrible. Il y a un pillage, bien sûr, mais la prise de Constantinople en 1204, ça n'est ni la prise de Jérusalem en 1099, ni le sac de Rome, ni même la prise de Béziers. Hein, donc, il n'y a pas de massacre de la population.
Non.
Ça n'est même pas la prise de Constantinople de 1453, où la ville a quand même été vidée comme un poulet de tous ses habitants.
Oui, mais c'est tout de même...
Il y a une continuité urbaine, avant et après.
Mais moralement, c'est un choc.
Oui, évidemment, c'est un choc.
Parce que ce sont des chrétiens qui conquièrent, donc c'est aussi...
Et puis, il y a effectivement un pillage, quand même.
Oui, et ce pillage consécutif, en particulier à ces incendies dont a parlé tout à l'heure Jean-Claude Chesnais, c'est aussi pour vous, les historiens, la destruction d'une majorité des grands manuscrits qu'on pouvait connaître dans ce moment-là. J'ai vu quelque part qu'il y avait beaucoup de manuscrits qui avaient disparu dans les incendies.
Bon, alors, oui, sûrement, il y a des manuscrits qui ont disparu maintenant.
Ou qui ont été déplacés, tout simplement, voilà. Qui ont changé
J'attends
de propriétaire.
J'attends toujours qu'on me dise quelle est l'œuvre extraordinaire qui était lisible à la fin du XIIe siècle, qui était perdue au moment de la Renaissance paléologue. S'il y a eu la Renaissance paléologue à la fin du XIIIe siècle, c'est bien parce que, alors certes, les Latins ne sont pas beaucoup intéressés à ces manuscrits grecs, même si certains ont été consultés pendant la période latine. On le sait parce qu'il y a des annotations, par exemple sur le Dioscoride de Vienne, il y a des annotations en latin qui datent probablement de cette période, donc un manuscrit du texte médical de Dioscoride, très, très fameux. Mais s'il y a eu la Renaissance paléologue à la fin du XIIIe siècle, c'est bien parce que quand les Byzantins ont repris la ville, ils ont retrouvé tous les manuscrits qu'ils y avaient laissés en partant.
Oui, disons que les incendies ont tout de même ces grands palais, c'était les palais des grands serviteurs qui faisaient copier. Il y a eu des pertes. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la bibliothèque impériale. Elle n'a pas dû être dans les incendies parce qu'elle est au Black Cairn. Mais ce qu'on sait, c'est que les Latins ont trouvé des quantités de manuscrits et qu'ils les ont vendus à prix dérisoire et que les Grecs d'Asie mineure qui étaient en train de reconstituer un État les ont rachetés. Ce qui explique aussi pourquoi...
Quand même pas tant que ça, puisque quand Nicéphore Blémidès, qui vit dans le territoire
mycénicien... Non, mais ils en ont racheté. Je veux dire que Il y a quand même une circulation.
Quand il veut se former culturellement, il est obligé de retourner dans le territoire de l'Empire latin parce qu'il ne trouve pas les manuscrits nécessaires dans le territoire de l'Empire de Nicée.
Alors, il nous reste environ 5 minutes pour conclure cette émission. On n'ira pas aussi loin qu'on le souhaitait, mais c'est normal parce que c'est assez complexe à comprendre, cette croisade. Tout de même, une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi s'arrête-t-il? C'est-à-dire pourquoi certes, ils ont conquis Constantinople, ils ont pris le pouvoir, pourrait-on dire, ces francs dans cette ville de Constantinople, mais ils pourraient continuer. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, ils se décident à rester et à créer cette particularité, une sorte d'empire latin, justement, sur les décombres de l'empire byzantin pendant une soixantaine d'années, en l'occurrence Jean-Claude Chesnais? Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce qu'on a imaginé? Parce que ça n'était pas prévu à l'avance, et ils se décident à s'installer, au bout du compte, dans un territoire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont gouverner.
Les chefs croisés, eux, connaissent. Ils le connaissent assez bien, puisqu'on sait ensuite que la répartition territoriale se fera d'après les documents fiscaux de l'Empire. Ils ont des conseillers et il y aura ce qu'on appellerait aujourd'hui des collaborateurs grecs. Si, mais il y aura tous les Grecs ne fuient pas Constantinople. Mais l'idée reste la même. Il faut contrôler l'Empire byzantin. On le contrôle. Et à ce moment-là, on a les ressources supplémentaires. Vous voyez, c'est la continuation. Mais simplement, l'Empire byzantin ne désire pas être contrôlé.
Oui, c'est ça. Pourquoi finalement se donner la peine d'aller contrôler, de mettre des moyens militaires, administratifs, de contrôler un territoire qui est pourtant un territoire ami et qu'on pourrait tout à fait laisser autonome sans se soucier de prendre en charge un territoire? Ça n'est pas si simple que ça.
C'est un territoire riche et il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent s'installer, faire fortune, devenir roi de Thessalonique, duc de Nicée.
Oui, pour une partie des croisés, ça a été quand même une promotion sociale.
Oui.
C'est l'appât du gain qui explique uniquement cette conquête de Constantinople.
Mais c'est un miracle.
En 1204.
C'est un miracle. Dieu l'a voulu, voilà. Visiblement. C'est contre tout...
La réaction d'Innocent III est intéressante de ce point de vue. Oui. En même temps, alors qu'il avait absolument désapprouvé la prise de Zara et le projet sur Constantinople, eh bien, il a un peu pris quand même la prise de Constantinople au bout du compte comme une divine surprise.
Alors que ça le disqualifie en tant que chef politique.
Et oui, mais il a une réaction ambiguë. Mais quelques mois plus tard, il écrit une autre lettre en reprochant aux croisés tous les crimes qu'ils ont commis pendant la prise de la ville. Donc il est partagé. Je pense que pour beaucoup de chrétiens, il y avait ce même sentiment ambivalent. D'un certain côté, Dieu avait aussi montré qu'il approuvait la prise de contrôle de ce territoire par les croisés.
Jean-Claude Chenet ?
Oui, absolument. C'est une situation ambivalente. Et si vous voulez, les Grecs étaient peut-être prêts à prendre un empereur d'origine latine si celui-ci restaurait la puissance de l'Empire byzantin. Mais l'Empire est très divisé parce que Alexis III est toujours présent en Thrace. Son gendre Théodore Lascaris est en train d'animer l'Asie mineure. La situation est impossible et les Latins n'en ont pas parfaitement conscience, je pense. Et vous pouvez pas estimer que la population grecque qui apprend la prise de Constantinople par les croisés en 1204 soit prête à accueillir favorablement, même si on sait que dans le Péloponnèse, une partie de l'élite a négocié avec l'arrivée des chevaliers francs.
Surtout, les choses ont très vite mal tourné pour les Latins, qui ont été défaits dès l'année suivante par les Bulgares. Peut-être que si cette défaite n'était pas advenue, le projet qui s'était élaboré d'une sorte de fusion entre les Latins, de récupération de l'héritage impérial par les Latins, aurait connu plus de succès.
Merci beaucoup Guillaume Saint-Guilain et merci Jean-Claude Chenet de nous avoir éclairé sur cette expédition connue généralement dans ses grandes lignes mais qu'on ne connaît pas en détail. C'est ce que vous avez fait avec nous. Merci beaucoup, merci Anaïs. On se retrouve demain pour une autre émission consacrée à cet empire byzantin.
Oui, on continue à remonter le temps puisque mardi nous étions en 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans. Aujourd'hui nous étions en 1204, donc cette fameuse croisade de la prise de Constantinople par les Latins d'Occident. Et demain nous parlerons du schisme, le fameux schisme qui a séparé la chrétienté en deux empires.
Merci à tous les deux et merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes pour nous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Emmanuel Morsnacan nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez commenter également sur les pages de France Culture cette émission ainsi que les autres. Et puis également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter @FabriqueFC.